Les loups-garous.
C'était il y a fort longtemps dans le village de La Trappe, sur les coteaux du Volvestre. Et au moment de cette histoire, le village comptait à peu près 3 fois plus d'habitants que maintenant. Et cette communauté aurait pu être tranquille, mais elle passait un moment difficile, voire délicat. Figurez-vous que depuis quelque temps, en effet, des bruits couraient, comme quoi certaines personnes auraient aperçu un loup-garou. Plus personne n'osait sortir la nuit, et surtout les filles et les jeunes femmes. Et ils n'étaient pas fous non plus, les loups-garous, hein, à ce moment-là. Vous savez qu'un loup-garou est une personne, qu'on pourrait dire, normale dans la journée. Mais cette personne peut se transformer la nuit pour devenir un monstre, ressemblant à un gros loup. On dit qu'elle souffre de lycanthropie. C'est comme ça que ça se dit en français. Cette personne n'y peut rien, c'est comme ça. À un moment donné, elle se transforme et part battre la campagne à la recherche d'une victime, voire d'une proie. Il n'y avait pas eu de gros problèmes, de drames, mais un drôle de climat régnait et tout le monde soupçonnait tout le monde. Il y avait, à cette époque, dans le village, un sabotier qui faisait des sabots et des galoches pour tout le village, mais aussi pour les habitants des villages environnants, tant son travail était remarquable et remarqué. Jacques, mais qu'est-ce qu'il s'appelait ? Il s'appelait Jacques. Un colosse qui, quand il allait abattre les arbres pour faire des sabots, maniait son énorme hache comme si elle ne pesait que quelques grammes, alors qu'elle ne devait peser, entre 10 et 15 kilos. Il était fort comme 10 hommes et brave comme tout. Et il allait bientôt se marier avec la Claudine, une brave et belle fille, honnête comme tout, qui vivait avec ses parents dans une ferme isolée, bien à l'écart du village voisin de Bax. C'était quelqu'un de bien, ce Jacques, mais tout le monde avait, un jour ou l'autre, bénéficié de ses services. Il n'avait qu'un seul défaut, au dire du curé, c'est qu'il ne le voyait jamais à la messe, et encore moins à confesse. Mais bon, c'était pas bien grave, et de toute façon, pour Jacques, mais ce n'était pas un défaut que de ne pas aller à l'église. Le curé du village, qui depuis un moment paraissait un peu triste d'ailleurs, et cette tristesse se ressentait jusque dans ses sermons. On le voyait rarement sortir de son presbytère dans la journée. Il ne sortait plus que pour aller réconforter les malades, rendre des visites rapides à quelques paroissiens. Et le soir, il s'enfermait chez lui, après avoir remercié sa bonne. Pour le sabotier, qui n'avait peur de rien, lui, ces histoires de loup-garou à dormir debout que l'on racontait le laissaient de marbre. Il n'allait pas se priver d'aller voir sa future femme, qui habitait encore donc chez ses parents, bien après le petit pont de bois qui enjambait le Camedon. Le ruisseau marque la séparation entre les deux communes. Un soir donc, sur les coups de minuit, après avoir passé la soirée chez Claudine, après avoir joué aux cartes et bu un verre de vin chaud avant d'affronter la froideur de la nuit, Jacques était rentré vers La Trappe. Et à travers le petit voile de brume qui était tombé, comme souvent, le soir, en automne. Il avançait de bons pas quand soudain, à l'entrée du pont en bois du Camedon, il te voit une énorme bête, un gros loup, dressé sur ses pattes de derrière. L'air bien menaçant. Un peu surpris, hein, notre sabotier marque un temps d'arrêt, juste le temps de se ressaisir, et tout d'un coup, vif comme l'éclair, il se lance vers la bête en criant « Hardi Pichou, avance, avance, allez, allez, vas-y, vas-y, avance !» Et avant que la bête ne puisse esquiver, le moindre mouvement, Jacques te lui donne un coup de poing sur le museau qu'il envoie taper avec le front contre la borne en pierre qui délimite l'entrée du pont. Alors là, juste au moment où le sang a coulé du museau et de l'arcade ouverte, la bête s'est transformée petit à petit. Elle a perdu son allure de bête pour reprendre l'aspect de la personne qu'elle est dans la journée, avant de se transformer, oh, bien involontairement. Et devant les grands yeux ouverts de surprise, Jacques a vu apparaître, dans sa soutane, le curé du village, qui lui a dit en cherchant un peu les mots tout de même, « Ah, merci mon fils, merci de m'avoir délivré de cette malédiction qui empoisonne ma vie depuis un grand moment. Si tu ne m'avais pas blessé et fait couler mon sang, je serais peut-être resté loup-garou toute ma vie. » Alors, le sabotier a pris le curé un peu étourdi dans ses bras pour le porter chez le guérisseur, l'un des binaires du village. Oh, cela formait un drôle de couple dans la nuit. Ce grand gaillard porta l'homme d'église, la soutane qui traînait un peu par terre. Et le guérisseur a parfaitement soigné le curé. Chose extraordinaire. Et celui-ci a pu reprendre rapidement ses activités et ses sermons, au grand soulagement des habitants. Bien sûr, cette histoire a fait le tour de la vallée et s'est répandue rapidement, bien au-delà. Et c'est depuis ce jour que le nombre de loups-garous a diminué rapidement, jusqu'au point d'être exterminé aujourd'hui. Alors, maintenant, vous savez comment faire pour vous débarrasser d'un loup-garou. Il suffit d'une bonne dose de courage et avant tout, d'apercevoir cette étrange bête. Mais bon, je me demande pourquoi je vous dis tout ça, alors qu'il n'en existe plus de loup-garou. Enfin, c'est ce qu'on dit, quoi. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, bien, le soir, quand vous sortez, restez groupés, va, il vaut mieux, on ne sait jamais. Et cric et crac, que mon compte que s'acabate.